Verrons si l'ordre permet comment on peut se tirer de cet embarras. Alors, j'ai annoncé qu'il y avait deux attitudes épistémologiques qui pouvaient être critiquables, deux attitudes qui pouvaient être plutôt épistémologiquement critiquables. Hein. La réduction de du culturel au naturel. Là, voilà la première attitude qui est épistémologiquement critiquable. C'est-à-dire réduire le culturel au naturel. Alors, je sais bien que on nous dit aujourd'hui qu'il n'y a pas de différence entre ce qui est de l'animal et de l'homme, etc. C'est-à-dire qu'on rabaisse tout ça au naturel. Bon, ça, vous allez voir, ça ne tient pas debout. Alors, cette réduction-là du culturel naturel, nous l'avons rencontrée incidemment en évoquant, au début de cet exposé, la communication cellulaire, par exemple, et la communication animale. Je disais chez Jacques Goldberg, directeur, tenez-vous bien, du laboratoire de biosociologie animale et humaine à Paris 5, et auteur des fondements biologiques des sciences humaines, c'est tout un programme, hein. Cette idée que l'étude de la communication animale regroupe éthologistes, linguistes, psychologues, sociologues, en plus des chimistes et d'endocrinologues. excusez-moi, on se demande quel objet vise tout ce monde-là. En tout cas, la communication animale, selon cet auteur, peut fournir des modèles de recherche et de réflexion pour les communications proprement humaines. Voilà, vous avez typiquement ici un exemple de réductionnisme. Bien sûr, il y a toujours eu des fabulistes jouant sur l'anthropomorphisme, voyez La Fontaine, mais on peut douter qu'ils se prenaient au sérieux, on peut douter qu'ils ne se prenaient pas au sérieux, en fait. Elle n'est pas la démarche du positivisme jusqu'au compte, au contraire. Sa philosophie positive trouve naturellement partagée et d'avance sur une échelle de dépendance en cinq sciences. L'astronomie, la physique, la chimie, la physiologie et enfin la physique sociale. Bon. Elles vont des phénomènes les plus éloignés de l'humanité à ceux qui sont les plus directement intéressants pour l'homme. C'est toujours Kant qui dit ça. Entre ces deux extrêmes, c'est-à-dire entre l'astronomie et le social, les degrés de spécialité, de complication et de personnalité des phénomènes vont graduellement en augmentant, ainsi que leurs dépendances successives. Alors, si on suivait Auguste Comte, tout semblerait dit, n'est-ce pas, on va des sciences de la nature aux sciences de la culture, il y a une continuité, et ce n'est qu'une question de sophistication et de complexité croissante. Autrement dit, pour Comte, disons pour les positivistes, attention, quand je dis positiviste, je parle d'une école de pensée. Je ne veux pas confondre avec la science positive, c'est autre chose. Bon, alors, le culturel, donc, n'est que naturel complexe, voilà, pour ces gens-là. Cette philosophie sous-tend des travaux qui portent sur une continuité entre une communication dite animale et une communication dite humaine, mais aussi sur la psychologie animale et la psychologie humaine. La veille scientifique me l'a montré. Il pullule en ce moment chez Elsevier et chez d'autres des idées comme ça. Bon, le langage animal, le langage humain, etc., c'est du pareil au même. Bon. C'est juste un peu plus compliqué. Ok. Bon. Pour cette doctrine, il n'y a pas de seuil de l'humain. Mais enfin, réfléchissons un peu. Peut-on comparer le symbole animal, à la fois indice et sens, avec l'analyse proprement humaine, en signifiant et signifié, comportant des unités discrètes, qui sont les phonèmes, les mots, tandis que le cri animal n'est pas discrétisé. Peut-on comparer la ruche à une société humaine? Une ruche a-t-elle une historique propre, autre que celle qu'un homme peut y projeter? Est-ce qu'elle connaît les révolutions qui détrônent la reine? Les abeilles ouvrières se mettent-elles en grève? Quelle continuité y a-t-il entre l'abeille ouvrière, dont l'activité est strictement déterminée, et les rôles sociaux que peut prendre occasionnellement, selon la conjoncture, des êtres humains? On peut certes découvrir une certaine similarité, c'est-à-dire au sens très strict d'une identité partielle ou d'une différence partielle, qui accepte la possibilité concomitante de la continuité et de la discontinuité entre les fonctions animales et les fonctions humaines. Mais s'il y a similarité, où se situent les d'identité et où se situent les différences. Voilà, il faut se poser la question. Le langage est souvent cité, mais préciser en quoi l'animal en est ou non capable nécessite déjà de définir ce que l'on entend par langage. Et le langage n'est sans doute pas le seul domaine où la question se pose. Outils et technicité, sociabilité et relations sociales, motivation et morale sont d'autres domaines où le même type de questions se pose. Et bien sûr, il en va de même pour la communication. Autrement dit, l'erreur serait de le voir, comme dans la généralisation hâtive, que des identités et d'ignorer les différences, celles qui font précisément le seuil de l'humain. Sans tomber dans l'erreur inverse, le dualisme, bien entendu. Alors la seconde attitude maintenant. L'importation de modèles d'une autre science ou d'une technique. Ça aussi, ça se trouve régulièrement. Importer des modèles qui viennent d'ailleurs, ça fait savant. Bon, mais ça monte nulle part. Alors c'est une pratique qui est quand même ancienne. Je rappellerai la théorie des animaux-machines chez Descartes, et puis chez Lemaître au XVIIIe siècle, la théorie de l'homme-machine. Autrement dit, on ne s'était pas privé d'essayer d'expliquer le vivant par la physique mécaniste, comme on essaie maintenant d'expliquer la schizophrénie par des dysfonctionnements des neurotransmetteurs dans le paléocortex. Bon, ouais, je ne veux pas dire qu'il n'y a pas de dysfonctionnement, effectivement, mais est-ce que c'est eux qui sont le phénomène explicatif ou non? Voilà le problème. Hein. Une science dépassant son objet cesse d'être explicative de phénomènes. Ceux-ci sont placés hors de son champ. Et donc, elle doit laisser la place à une nouvelle science. C'est ce que montre toute l'histoire des sciences. Les sciences dites de la nature mettent un ordre rationnel, donc formel, dans les phénomènes naturels. Le problème est que les sciences de la culture s'attachent à des phénomènes humains déjà formalisés, déjà rationalisés. Quand nous étudions le langage, nous n'y mettons pas l'ordre de notre logique. La capacité de langage ayant déjà créé un ordre, nous attachons plutôt à l'analyser pour en découvrir la logique. Nous ne pouvons donc pas plaquer a priori de schémas explicatifs sur des phénomènes de culture, car alors les schémas font écran et masquent la complexité d'une réalité. Alors pour cela, je vous montre deux exemples. D'abord, le schéma amélioré du téléphone avec synchronisation des codes. C'est celui qui a été développé au départ par Jacobson, qui ne se cachait d'ailleurs pas de s'inspirer des travaux de cet ingénieur, au moins il avait cette honnêteté, qui a été repris à peu près par tous les modèles qui se sont ultérieurement attachés à théoriser la communication. J'en ai tiré un schéma général que vous voyez ici en projection, dont on retrouve les composantes dans tous les schémas de communication, ou presque. On part de l'idée que la communication est une fonction du langage, ce qui est encore une fois à démontrer, et l'on confond le langage, dont on suspend l'analyse de sa fonction de représentation, avec la langue, que l'on assimile à un code, en oubliant qu'un code a un nombre fini d'éléments et de règles de combinaison. On y trouve naturellement le fameux message, dont on a dit qu'il constituait lui-même un obstacle épistémologique, je l'ai dit. Hein. Je l'ai dit sans l'expliquer plus longtemps. Bon, je n'ai pas le temps maintenant, mais enfin, je vous en reparlerai à l'occasion d'une autre conférence. Toute la dynamique donc consiste à synchroniser les codes de l'émetteur et celui des récepteurs pour que le message soit reçu né varié tour. Bon, en fait, pour les besoins d'une modélisation extérieure au processus de communication, on fait interférer des paramètres propres à l'énonciation, c'est-à-dire émetteur, récepteur, vecteur, donc relatifs à la théorie du langage, avec des paramètres sociologiques comme les fameux codes. Et ce faisant, on ne peut tirer de tels schémas ni une théorie du langage, ni une théorie de la communication. Tout y est confondu. Tout est confondu parce que on croit parler de la même chose, on parle de deux choses différentes. Bon. Deuxième cas, c'est les schémas qui sont tiré de la théorie générale des systèmes. Ça, c'est un peu l'idée de Palo Alto, si vous voulez. Palo Alto voulait étudier, mais de l'extérieur, l'interdépendance de l'individu et de son milieu. Alors, les chercheurs de Palo Alto insistaient donc sur la relation qui existerait entre différentes parties d'un système, par exemple une famille. Bon, Dieu que cette idée n'est pas critiquable en soi, à condition de rechercher l'explication non dans le système lui-même, mais bien dans la dynamique propre aux composants du système. J'y renonce d'emblée à chercher ce qui cause, c'est-à-dire ce qui est la cause de l'instauration des relations entre les monades humaines du système, pour s'en tenir à une observation extérieure du système, dont ils espèrent qu'elle leur fournira, je cite, la structure des processus de communication. Ah ben oui, voilà. Alors suivant Hall, suivant Fagan et quelques autres, ils plaquent un modèle systémique valable pour des machines sur des rapports humains. Les objets du système, de quelque nature qu'ils soient, dans ces cas-là, puisqu'on est dans le système, on peut mettre n'importe quoi là-dedans, hein, ils se caractérisent par leurs attributs, c'est-à-dire par leurs états observables. Et ces attributs peuvent à leur tour constituer des messages, oulala, ou pire, communication. Ces messages ou ces communications étant capables d'influencer d'autres objets du système jusqu'à modifier leurs états. Ouais. Il s'opère ainsi un échange permanent qu'ils appellent communication, qui aboutit finalement à un ordre du système dans lequel s'inscriront toutes les relations entre ces objets. On dit qu'un système est stable eu égard à certaines de ses variables, si ces variables tendent à demeurer dans des limites précises. Donc, nous en sommes là. Il y a un système où s'inscrivent toutes les relations, ces variables, en quelque sorte, restant dans des limites précises. Mais je vais vous dire que un tel système est relativement facile à simuler informatiquement. Ben, je l'ai fait. Vous voyez? Je vous montre ici un logiciel que j'ai fait tout bêtement, qui s'appelle TriMap, où vous voyez trois, ce qu'on pourrait appeler des machines autoprogrammables. Bon, le terme, je l'ai emprunté à quelqu'un, je ne l'aime pas beaucoup, mais enfin, je l'ai gardé. Et vous allez voir qu'elles vont s'équilibrer, au bout d'un moment, les unes les autres, par des échanges successifs. Alors, on démarre. Vous allez voir, et je n'ai pas besoin de détailler le système, on verra surtout son résultat tout à l'heure. Bon, mais nous ne sommes pas en science ici. On se borne à l'observation empirique de la dynamique d'un système. Point. Le système que j'ai fait est un système purement informatique. J'aurais pu faire aussi un système électromagnétique ou tout ce que vous voudrez. C'est pas grave, ça marche aussi. C'est-à-dire que ce système, il n'est qu'aux assouvi que dans la mesure où l'on renonce à étudier la structure des objets qu'il compose. Ces objets sont réduits, comme chez les béphoristes, à l'état de boîte noire. Vous voyez, ces trois maps que vous voyez là, c'est trois boîtes noires, en quelque sorte. Bon, j'aurais mis un affichage dessus, mais c'est trois boîtes noires, ni plus ni moins. Or, c'est précisément, même pour l'informaticien, des boîtes qui sont, par le programme, à l'origine des états. Et oui, parce que chacune de ces maps que vous voyez là, elle est programmée. Elle a une série d'instructions. Et elle ne pourra réagir qu'en fonction de ce qui va rentrer en input, en entrée, qui va être traité cette fois-ci par la map elle-même, selon son propre programme, et qui va produire en sortie, en output, note, signal, etc. Et oui, c'est justement la connaissance de ce qui se passe à l'intérieur des boîtes qui va expliquer les choses. Et pas les interactions elles-mêmes. Vous voyez? Bon. C'est-à-dire que les boîtes sont capables d'interagir. C'est le programme qui les rend capables d'interagir. Mais quand je regarde l'interaction entre elles, je ne comprends pas grand-chose. Je ne comprends qu'à la sortie, vous allez voir, quand ça met un peu de temps, parce qu'il faut du temps que mes trois maps ici soient équilibrées. On peut donc s'interroger, pour en revenir à mon propos, épistémologiquement sur le bien fondé du recours à un système formel extérieur pour expliquer des phénomènes surdéterminés, comme la communication, et déjà formalisés de toute façon. De plus, les messages ou communications de Palo Alto mêlent indistinctement des interlocutions, sémiosis, expressions axiologiques, actes sociaux, comme s'ils relevaient d'une causalité unique. Ajoutons que la théorie générale des systèmes prétend transcender l'ensemble des sciences, donc suivre la logique d'Auguste Comte, supposant cette continuité des sens, comme nous l'avons dit précédemment. Continuité des sciences, des sens. Nous avons là encore des formes de réductionnisme, supposant la continuité entre fait de nature et fait de culture. Et enfin, un isomorphisme apparent entre phénomènes n'autorise pas à conclure qu'ils sont de même nature. Voir l'équation générale des mouvements périodiques en physique, par exemple. On peut ajouter que les théories de Palo Alto ont abouti en clinique psychiatrique aux thérapies familiales, dont la veille scientifique établit qu'au-delà de 6 mois de follow-up, ça marche. Bon. Alors là, pour finir, nous arrivons à la fin de cet exposé, qui a été quand même assez long. Nous arrivons à la fin de cet exposé, comme vous le voyez, il faut une discipline extrême pour faire des sciences de la culture. Une véritable catharsis. Ça vaut également pour toute étude sur la communication. Et les obstacles épistémologiques sont multiples. Je n'ai pas eu l'occasion d'évoquer la mise à l'épreuve expérimentale des modèles qu'on peut élaborer pour expliquer la communication. Il faudrait pratiquement une autre heure pour en parler. Alors. Bon. Disons simplement que c'est par la clinique des psychoses qu'on a le plus de chance d'y arriver. Maintenant, il demeure une question. Peut-il y avoir une science dont l'objet est la communication, ou bien s'inscrit-elle dans une science plus générale qui lui fournit ses lois causales? Voilà la question qu'il faut se poser. Et c'est précisément là un point crucial. Est-ce qu'il y a une science spécifique ou est-ce que ça s'inscrit dans une science plus générale qui lui fournit ses lois causales? Bon, une éventuelle science de la communication devrait être autonome, si elle pouvait exister. C'est-à-dire que le phénomène de communication devrait être causa sui, ne trouver ses causes que dans son propre objet, et non de les recevoir d'une autre science. Bon, il n'existe pas de physique de l'eau. Ah oui, c'est un fluide, elle relève de la statique et de la dynamique du fluide. C'est une molécule, elle relève de la chimie moléculaire. Il n'y a pas davantage de physique de la pesanteur, puisqu'elle relève de la gravitation universelle. Alors le doute plane encore sur le statut de la communication comme science autonome, et je pense que on devrait considérer que la communication, c'est pas un phénomène autonome. Elle résulte d'un processus de divergence-convergence négocié, dont la dynamique est causée par l'altérité fondatrice de la personne. Ça, c'est un point que j'ai eu l'occasion de développer dans un ouvrage. Bon. En tout cas, par conséquent, je pense qu'elle est un objet d'étude, dans une science plus générale, qui explique comment nous sommes des êtres sociaux, c'est-à-dire une sociologie, une vraie cette fois-ci, une sociologie encore à développer, mais qui n'a rien à voir avec celle des sociologues de Nanterre ou la Sorbonne, ni avec la psychologie des psychologues. Mais voilà, ceci est une autre histoire. Alors regardez, ça y est, notre machine a réussi à trouver son état d'équilibre. Eh bien, maintenant, c'est normal. Le système pourrait continuer à tourner pendant 107 ans. Il ne bougerait plus. Il est devenu stable. Vous voyez bien que nous sommes juste dans le cas d'un système, ni plus ni moins, et que ce système ne pourra s'expliquer dans son fonctionnement et tout que si on va voir à l'intérieur des boîtes noires. Merci.